Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Audible Studio présente L'éveil d'Endymion de Dan Simmons, traduit de l'américain par Monique Lebailly, lu par Mathieu Dahan. Je dédie ce livre à Jack Vance, notre plus beau créateur de monde, et au souvenir de Carl Sagan, savant, écrivain et enseignant, qui exprima clairement les rêves les plus nobles de l'humanité. Nous ne sommes pas de la matière qui subsiste, mais des structures qui se perpétuent. Norbert Wiener, Cybernetics or Control and Communications in the Animal and the Machine. La nature universelle se sert de la substance universelle comme d'une cire. Elle modèle d'abord un cheval, ensuite elle le fond et se sert de cette matière pour façonner un arbre, puis un homme, puis autre chose. Chacun de ces objets n'a existé qu'un instant. Il n'y a rien de terrible pour un coffre à être démonté, pas plus qu'à être assemblé. Marc Aurèle. Pensez pour moi-même. Mais voici le doigt de Dieu, éclair de la volonté doué de puissance. Un existant derrière toute loi. Qu'il est fait et, hélas, elles sont. Et j'ignore si, sauf en ceci, un tel don doit être accordé à l'homme. Qu'à partir de trois sons, il conçoive non un quatrième son, mais une étoile. Robert Browning, Abt Vogler. Si ce que j'ai dit n'était pas assez clair, ce que je crains, je te ramènerai à l'endroit où j'ai commencé cette séquence de pensée, je veux dire où j'ai commencé à voir comment l'homme fut formé par les circonstances. Et que sont les circonstances sinon des pierres de touche de son cœur? Et que sont ces pierres de touche sinon les épreuves que subit son cœur? Et que sont les épreuves que subit son cœur sinon des événements qui fortifient ou retouchent sa nature? Et sa nature retouchée, qu'est-ce sinon son âme? Qu'était son âme avant de venir dans le monde, avant de connaître ses épreuves, ses retouches et ses perfectionnements? Une intelligence sans identité. Et comment cette identité s'est-elle formée? Par le véhicule du cœur. Et comment le cœur peut-il devenir ce véhicule, sinon dans un monde de circonstances? Là, maintenant, je pense que parti comme je le suis avec la poésie et la théologie, tu peux remercier ton étoile que ma plume ne soit pas très prolixe. John Keats. Lettre à George Keats, son frère, 19 mars 1819. Première partie. Chapitre 1. Le pape est mort! Vive le pape! Ce cri résonna dans la cour de Saint-Damase et aux alentours. On venait de découvrir le corps de Jules XIV dans son appartement papal. Le Saint-Père était mort pendant son sommeil. En quelques minutes, la nouvelle se répandit dans le groupe de bâtiments disparates, encore désignés sous le nom de Palais du Vatican, puis à travers tout l'État à la vitesse d'un feu de circuit dans de l'oxygène pur. La rumeur de la mort du pape se fraya un chemin brûlant dans les bâtiments administratifs. Passa d'un bond la porte Sainte-Anne fourmillante de monde pour gagner le palais apostolique et celui adjacent du gouvernement, rencontra des oreilles attentives dans la sacristie de la basilique Saint-Pierre, si bien que l'archevêque qui célébrait alors la messe jeta un coup d'œil par-dessus son épaule en entendant les chuchotements sans précédent de l'assemblée, puis sortit enfin de l'église avec les fidèles pour se répandre parmi la foule plus nombreuse de la place Saint-Pierre, où 80 à 100 000 touristes et fonctionnaires de la Pax en visite la reçurent comme une masse critique de plutonium prête à entrer en fission. Une fois franchie la porte de l'arc des cloches, réservée aux véhicules, la nouvelle accéléra, atteignant la vitesse des électrons, puis celle de la lumière et, pour finir, jaillit de la planète Passem à la vélocité de la propulsion Hawking, des milliers de fois plus rapide que la lumière. Plus près, hors des anciens murs du Vatican, téléphone et persoc carillonnèrent dans tout le château Saint-Ange, massif et suintant, où les bureaux du Saint-Office de l'Inquisition s'enfonçaient au cœur de la montagne de pierre, autrefois édifiée pour servir de mausolée à l'empereur Adrien. Toute la matinée retentirent le cliquetis des chapelets et le bruissement des soutanes empesées des fonctionnaires du Vatican qui se précipitaient vers leur bureau pour surveiller leur liaison télématique cryptée et attendre les mémos venus d'en haut. Les communicateurs personnels sonnèrent, carillonnèrent et vibrèrent dans les uniformes et les implants de milliers d'administrateurs de la Pax, commandants militaires, politiciens et employés du Mercantilus. Une demi-heure après la découverte du corps sans vie du pape, les médias furent mis au courant de la nouvelle sur toute la planète Passem. Ils préparèrent leurs holocaméras robotisées, connectèrent tout leur arsenal de liaisons satellites intégrées, envoyèrent leurs meilleurs reporters humains au bureau de presse du Vatican et restèrent en attente. Dans cette société interstellaire où l'Église disposait d'un pouvoir presque absolu, les informations attendaient non seulement une confirmation émanant de sources indépendantes, mais aussi la permission officielle d'exister. 2 heures et 10 minutes après la découverte du corps du pape Jules XIV, l'Église confirma sa mort par une déclaration du secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Lourdussami. En quelques secondes, l'annonce enregistrée fut transmise à toutes les radios et holovisions du monde grouillant de Passem. Avec sa population d'1,5 milliard d'âmes, rien que des chrétiens régénérés portant le cruciforme, la plupart employés par le Vatican ou l'énorme bureaucratie civile, militaire et marchande de la Pax, la planète fit une pause afin de l'écouter avec intérêt. Avant même la déclaration officielle, une douzaine de nouveaux astronefs de classe Archange avaient quitté leur base orbitale et s'étaient translatés dans la petite sphère humaine de ce bras de la galaxie, leur propulsion presque instantanée tuant aussitôt leurs équipages. Mais ils n'en transportaient pas moins leur message de la mort du pape, bien en sécurité dans les ordinateurs et les transpondeurs codés à destination des 60 plus importants systèmes solaires et mondes archidiocésains. Ces courriers archanges ramèneraient à Passem quelques-uns des cardinaux juste à temps pour l'élection, mais la plupart des membres du conclave préféreraient demeurer sur leur planète, évitant ainsi la mort malgré la promesse certaine de résurrection, et se contenteraient, pour élire le prochain pontife suprême, d'expédier leur cachet au lot codé interactif et leur hélico. 85 autres vaisseaux de classe Hawking, en majorité des vaisseaux torches à haute accélération, se préparèrent à filer à des vitesses relativistes, puis à se mettre en configuration de saut. Leur voyage durerait des jours ou des mois, leur déficit de temps relatif s'étageant de quelques semaines à plusieurs années. Ces vaisseaux attendraient dans l'espace de Passem les 15 à 20 jours standards que durerait l'élection du nouveau pape, puis transmettraient la nouvelle aux 130 systèmes moins importants de la Pax où des archevêques veillaient sur d'autres milliards de fidèles. Ces mondes archidiocésains devraient à leur tour envoyer la nouvelle de la mort, de la résurrection et de la réélection du pape au système inférieur, au monde lointain et aux myriades de colonies des confins. Une dernière flotte de plus de 200 courriers drones sans équipage humain, tirés des réserves de l'immense base astéroïde de la Pax dans le système de Passem, leur puce de stockage prête à enregistrer l'annonce officielle de la résurrection et de la réélection du pape Jules, accélérerait alors dans l'espace de Hawking pour porter la nouvelle aux éléments de la flotte engagés dans des patrouilles ou des combats avec les extros, le long du Grand Mur, sphère défensive située bien au-delà des frontières de l'espace de la Pax. Le pape Jules avait déjà 8 fois connu la mort. Son cœur était faible, mais le pontife ne permettait pas qu'on le répare, soit par la chirurgie, soit par la nanoplastie. Il soutenait qu'un pape devait s'en tenir à la durée naturelle de sa vie et qu'après sa mort, on devait élire un nouveau pontife. Le fait qu'il ait été réélu 8 fois ne le faisait pas changer d'opinion. Tandis qu'on apprêtait le corps du pape Jules pour la veillée mortuaire officielle, après laquelle il serait transporté dans sa propre chapelle de résurrection derrière Saint-Pierre, les cardinaux et leurs représentants se préparaient à l'élection. La chapelle Sixtine, où dans moins de 3 semaines aurait lieu le vote, fut fermée aux touristes. On y apporta d'anciennes stalles coiffées d'un dais pour les 83 cardinaux qui viendraient en personne, et l'on mit en place les projecteurs d'holographie et les connexions de transfert interactif de données pour ceux qui voteraient par intérim. La table des scrutateurs fut dressée devant le grand autel de la chapelle. On y disposa soigneusement des petits cartons, des aiguilles, du fil, un récipient, des linges et d'autres objets que l'on recouvrit d'une nappe en lin. La table des infirmiers et des réviseurs fut installée de l'autre côté de l'hôtel. On ferma, verrouilla et scella les grandes portes de la chapelle Sixtine. Les gardes suisses en armure de guerre, pourvus d'armes énergétiques high-tech, s'y postèrent ainsi qu'au portail blindé de l'annexe de résurrection papale de Saint-Pierre. Selon un protocole ancien, l'élection devait avoir lieu dans plus de 15 jours et moins de 20. Les cardinaux, qui résidaient en permanence à Passem ou à 3 semaines de déficit de temps, annulèrent leur ordre du jour habituel et prirent leur disposition pour assister au conclave. Tout le reste était prêt. Certains hommes gros portent leur poids comme une faiblesse, une marque de sybaritisme ou de fainéantise. D'autres endossent royalement cette masse qu'ils considèrent comme un signe extérieur de leur pouvoir grandissant. Simon Augustino Lourdussami appartenait à cette dernière catégorie. Cet homme énorme, véritable montagne écarlate dans sa robe de cardinal, semblait approcher de la 60aine depuis plus de 2 siècles de vie active et de résurrections successives. Joufflu, totalement chauve et enclin à s'exprimer en doux grognements graves capables de se transformer en un rugissement de Dieu qui emplissait la basilique Saint-Pierre sans aucun haut-parleur, il représentait pour tout le Vatican un modèle de santé et de vitalité. Au cœur de la hiérarchie de l'Église, beaucoup croyaient que Lourdussami, à l'époque jeune fonctionnaire mineur de la machine diplomatique vaticane, avait aidé le père Lénard Hoyt, pèlerin de l'ex-Hyperion, angoissé et tourmenté par la souffrance, à découvrir le secret qui soumit le cruciforme et en fit un instrument de résurrection. Il lui attribuait aussi une part au moins égale à celle du pape récemment décédé dans le sauvetage de l'Église menacée d'extinction. Quelle que fût la part de vérité de cette légende, Lourdussami était en pleine forme au lendemain de la 9e mort du Saint-Père en exercice, 5 jours avant la résurrection de sa sainteté. En tant que cardinal secrétaire d'État, président du comité chargé de veiller sur les 12 congrégations sacrées, préfet du plus craint et du plus incompris de ces organismes, la Congrégation sacrée de la doctrine de la foi, connue officiellement de nouveau après un interrègne de plus de 1000 ans sous le nom de Saint-Office de l'Inquisition universelle, Lourdussami était l'être humain le plus puissant de la curie. À ce moment précis, alors que sa sainteté le pape Jules XIV reposait en grand apparat à la basilique Saint-Pierre, attendant d'être transporté à l'annexe de résurrection dès que la nuit serait tombée, on aurait pu dire que Simon Augustino Lourdussami était aussi l'être humain le plus puissant de la galaxie. Ce fait n'échappait pas au cardinal ce matin-là.
« Lucas, sont-ils arrivés ? »
grommela-t-il à l'homme qui, depuis plus de 2 siècles, fort occupé, lui servait d'adjoint et de factotum. Monsignor Lucas Oddi était aussi mince, osseux, décrépit et affairé que le cardinal Lourdussami était énorme, charnu, sans âge et pondéré. Le titre exact d'Oddi, au sous-secrétariat d'État du Vatican, était substitut et secrétaire du chiffre. Mais on l'appelait généralement le substitut. Chiffre aurait pu être un surnom tout aussi pertinent pour ce grand bénédictin anguleux, car en 22 décennies de services onctueux rendus à son maître, personne, pas même Lourdussami, ne connaissait les opinions ou les émotions de cet homme. Cela faisait si longtemps que le père Lucas Oddi était le bras droit du secrétaire d'État que ce dernier avait cessé de voir en lui autre chose qu'une extension de sa propre volonté.
« Ils viennent de prendre place dans votre antichambre, » répondit Monsignor Oddi.
Lourdussami hocha la tête. Depuis plus de 1000 ans, bien avant que l'Égir ait lancé l'humanité loin de la terre mourante pour coloniser les étoiles, il était de coutume au Vatican de tenir les réunions importantes dans les antichambres des personnages officiels plutôt que dans leur bureau. Celle du secrétaire d'État Lourdussami était petite, pas plus de 5 mètres de côté, et nue, n'était une table ronde de marbre dans laquelle ne s'insérait aucune unité com, une unique fenêtre qui, si la polarisation ne l'avait opacifiée,
aurait donné sur une loggia externe aux fresques splendides, et deux tableaux du génie du XXe siècle, Carotan, l'un montrant l'agonie du Christ à Gethsémani, l'autre, le pape Jules, sous son identité antépapale de père Lénard Hoyt, recevant le premier cruciforme d'un archange puissant, mais à la mine androgyne, tandis que Satan, représenté sous la forme du Gritch, les regardait impuissants. Les quatre occupants de la salle d'attente, trois hommes et une femme, représentaient le conseil exécutif de la Ligue pancapitaliste du commerce transstellaire catholique indépendant, plus communément connu sous le nom de Mercantilus. Deux des hommes auraient pu être père et fils, H. Elvig Aaron et H. Kenneth I. Modino, tant ils étaient semblables par leur combi-cap astucieuse et chère, leur coupe de cheveux conservatrice et coûteuse, leurs traits habilement biosculptés d'Européens septentrionaux de l'ancienne terre et les badges rouges encore plus discrets, révélant leur appartenance à l'ordre militaire souverain de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte, ancienne société bien connue sous le nom de Chevalier de Malte. Le troisième était d'ascendance asiatique et portait une simple toge de coton. Il s'appelait Kenzo Isozaki et était sans doute, ce jour-là, après le cardinal Simon Augustino Lourdussami bien sûr, l'homme le plus puissant de la Pax. Le dernier représentant du Mercantilus, une quinquagénaire banale, aux cheveux noirs coupés courts avec désinvolture, au visage tiré, portant un costume de travail bon marché en fibre plastique peignée, H. Anapeli Cognani était, disait-on, l'héritière évidente d'Isozaki et, chuchotait-on depuis des années, l'amante de l'archevêquesse du vecteur Renaissance. Tous quatre se levèrent et s'inclinèrent légèrement lorsque le cardinal Lourdussami entra et prit place à la table. L'unique témoin, Monseigneur Luca Oddi, resta debout à l'écart, ses mains osseuses jointes sur sa soutane. Les yeux du Christ suppliciaient à Gethsémani de Carotan, semblait épier la petite assemblée par-dessus son épaule enfroquée de noir. Aaron et Aimodino s'avancèrent pour s'agenouiller et baiser le saphir biseauté de l'anneau du cardinal, mais Lourdussami rejeta d'un geste tout cérémonial avant que Kenzo Isozaki ou la femme aient pu approcher. Quand les quatre représentants du Mercantilus se furent réinstallés, le cardinal dit
« Nous sommes tous de vieux amis. Bien que je représente le Saint-Siège dans cette discussion pendant l'absence temporaire du Saint-Père, vous savez que tout ce dont nous parlerons aujourd'hui restera entre ces murs. »
Lourdussami sourit.
« Et ces murs, mes amis, sont les plus sûrs de la Pax et les mieux protégés contre toute écoute indiscrète. »
Aaron et Aimodino sourirent d'un air contraint. L'expression aimable d'Isozaki ne varia pas. Le froncement de sourcils d'Anna Peli Cognani s'accentua. « Votre éminence, dit-elle, puis-je parler librement ?» Lourdussami tendit vers elle une paume rondelette. Il se méfiait toujours des gens qui demandaient la permission de s'exprimer librement ou qui juraient de parler sincèrement ou qui utilisaient l'expression « franchement ».«
Bien sûr, cher ami, dit-il. Je regrette que la situation où nous sommes aujourd'hui nous laisse si peu de temps. »
Anna Peli Cognani acquiesça laconiquement d'un signe de tête. Elle avait compris qu'il lui ordonnait d'être précise. « Votre éminence, nous avons réclamé cette conférence afin de pouvoir vous parler non seulement comme des membres dévoués de la Ligue pancapitaliste de sa sainteté, mais aussi en tant qu'ami du Saint-Siège et de vous-même. » Lourdussami lui fit un signe de tête affable. Entre les bajoux, ses lèvres minces dessinaient un léger sourire.
« Bien entendu. »
Elvig Aaron s'éclaircit la voix.
« Votre éminence, il est normal que la prochaine élection papale intéresse le Mercantilus. »
Le cardinal attendit.
« Notre but aujourd'hui, poursuivit Aimodino, est d'assurer votre éminence, secrétaire d'État et candidat potentiel à la papauté, que la Ligue continuera, après la prochaine élection, à servir avec la plus grande loyauté la politique du Vatican. »
Le cardinal répondit par un hochement de tête toujours aussi discret. Il comprenait parfaitement. Le Mercantilus, ou plutôt le réseau de services secrets d'Isozaki, avait, on ne savait par quel moyen, subodoré une éventuelle insurrection au sein de la hiérarchie vaticane et surpris le plus silencieux des chuchotements dans une pièce à l'épreuve, comme celle-ci, de toute écoute indiscrète, disant que le temps était venu de remplacer le pape Jules par un autre pontife. Et Isozaki savait que si le complot réussissait, Simon Augustino Lourdussami serait cet homme-là. Dans ce triste interrègne, poursuivit Cognani, il était de notre devoir d'offrir l'assurance, tant privée que publique, que la Ligue continuerait à servir les intérêts du Saint-Siège et de notre Sainte Mère l'Église, comme elle le fait depuis plus de deux siècles standard. Lourdussami acquiesça de nouveau et attendit, mais les quatre dirigeants du Mercantilus gardèrent le silence. Le cardinal profita de cette pause pour s'interroger sur les raisons de la venue en personne d'Isozaki. Il préférait voir ma réaction au lieu de se fier au rapport de ses subordonnés, pensa-t-il. Le vieux fait plus confiance à ses sens et à ses intuitions qu'à tout le reste. Lourdussami sourit. C'est une bonne règle de conduite. Il laissa une autre minute de silence s'étirer avant de prendre la parole.
Mes amis, gronda-t-il enfin, vous ne pouvez pas savoir combien cela me réchauffe le cœur que quatre personnes si importantes et si occupées rendent visite à un pauvre prêtre plongé comme nous tous dans le chagrin.
Isozaki et Cognani restèrent impassibles, aussi inertes que de l'argon, mais le cardinal vit une lueur d'espoir médiocrement dissimulée s'allumer dans les yeux des deux autres membres du Mercantilus. Si Lourdussami accueillait si subtilement que ce fût leur soutien, cela mettrait le Mercantilus sur un pied d'égalité avec les conspirateurs du Vatican, ferait du Mercantilus un conspirateur bienvenu, traité de facto à égalité avec le nouveau pape. Lourdussami s'appuya plus lourdement sur la table. Le cardinal remarqua que Kenzo Isozaki n'avait pas cligné des paupières depuis le début de leur entretien.
Mes amis, en tant que bon chrétien régénéré, il hocha la tête en regardant Aaron et Aimodino, en tant que chevalier hospitalier, vous connaissez sans doute la procédure de l'élection de notre nouveau pape, mais permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. Les cardinaux et leurs homologues interactifs, une fois rassemblés et enfermés à clé dans la chapelle Sixtine, disposent de trois moyens d'élection, par acclamation, par délégation ou par le scrutin. Par acclamation, tous les cardinaux électeurs, poussés par l'Esprit-Saint, proclament l'un d'entre eux pontife suprême. Chacun de nous crie « Eligo », « Geli », suivi du nom de la personne que nous choisissons à l'unanimité. Par délégation, nous désignons parmi nous quelques cardinaux, disons une douzaine, qui effectuent ce choix à notre place. Par le scrutin, les cardinaux électeurs votent à bulletin secret, jusqu'à ce qu'un candidat recueille les deux tiers de la majorité plus une voix. Le nouveau pape est alors élu et les milliards de fidèles qui attendent voient monter la sfumata, les bouffées de fumée blanche qui signifient que la famille de l'Église a, une fois de plus, un Saint-Père.
Les quatre représentants du Mercantilus restèrent silencieux. Chacun d'eux connaissait évidemment les procédés d'élection d'un pape, non seulement les antiques mécanismes, bien sûr, mais aussi les manœuvres politiques, les pressions exercées, les négociations, les bluffs et le pur chantage qui avait souvent accompagné le processus au cours des siècles. Et ils commençaient à comprendre pourquoi le cardinal Lourdussami soulignait ainsi des évidences.
« Lors de ces neuf dernières élections,
grogna l'énorme cardinal de sa voix de basse,
le pape a été élu par acclamation, grâce à l'intercession directe du Saint-Esprit.
Lourdussami se tut durant un long et pesant moment. Monseigneur Oddi, aussi immobile que le Christ peint derrière lui, les regardait sans cligner des yeux, comme Kenzo Isozaki.
Je n'ai aucune raison de croire, reprit Lourdussami, que cette élection sera différente.
les responsables du Mercantilus restèrent figés. Pour finir, Isozaki inclina presque imperceptiblement la tête. Le message avait été reçu et compris. Aucune insurrection ne se préparait dans l'enceinte du Vatican, où, s'il en existait une, l'Urdusami s'en chargeait et n'avait nul besoin du soutien du Mercantilus. Si cette analyse s'avérait exacte, et si le temps du cardinal Urdusami n'était pas encore venu, le pape Jules veillerait une fois encore sur l'Église et sur la Pax. Le groupe d'Isozaki venait de prendre un terrible risque à cause du pouvoir et des récompenses incalculables qu'ils escomptaient recueillir en s'alliant avec le futur pontife. Maintenant, il ne leur restait plus qu'à affronter les conséquences de cette terrible mise. Un siècle plus tôt, le pape Jules avait excommunié le prédécesseur de Kenzo Isozaki pour une erreur de calcul bien plus minime, en lui refusant le sacrement du cruciforme et en le condamnant à mener hors de la communauté catholique, qui comprenait bien sûr tout homme, toute femme et tout enfant de Passem et de la plupart des mondes de la Pax, une vie suivie d'une vraie mort.
Maintenant, je regrette que des devoirs plus pressants m'obligent à me priver de votre chère compagnie,
grommela le cardinal. Avant qu'il ait pu se lever, et contrairement au cérémonial de prise de congé d'un prince de l'Église, Isozaki s'avança rapidement, fit une génuflexion et baisa l'anneau du cardinal.
« Éminence !»
murmura le vieux milliardaire de Mercantilus. Cette fois-ci, l'Urdusami ne se leva pas avant que chacun des puissants directeurs généraux se soit avancé pour lui témoigner son respect. Le lendemain de la mort du pape Jules, un astronef de classe archange pénétra dans l'espace du bosquet de Dieu. C'était le seul qui ne fut pas chargé de transporter un messager. Plus petit que les nouveaux modèles, il s'appelait le Raphaël. Quelques minutes après que l'archange se fut mis en orbite autour du monde gris cendré, un vaisseau de descente se sépara de lui et pénétra dans l'atmosphère en hurlant. Deux hommes et une femme étaient à bord. Leur maigreur, leur teint pâle, leurs cheveux noirs, mous, coupés courts, leurs paupières tombantes et leurs lèvres minces, leur prêtaient une apparence de triplé. Ils portaient des combinaisons spatiales rouges et noires sans aucun ornement et des bracelets minicom sophistiqués. Leur présence dans le vaisseau de descente constituait une curiosité. Les spationefs de classe archange tuaient invariablement les êtres humains durant leur translation violente dans l'espace de Planck, et il fallait généralement 3 jours aux crèches de résurrection du bord pour régénérer l'équipage humain. Ces trois-là n'étaient pas humains. Morphant des ailes et modelant toutes ses surfaces en une coquille aérodynamique, le vaisseau de descente traversa le cercle terminateur en Mach 3 pour plonger dans la lumière du jour. En dessous de lui tournait l'ex-monde templier du bosquet de Dieu, qui n'était plus que cicatrice de brûlures, champs de cendres, flots de boue, glaciers en retraite et séquoias verts luttant pour se réensemencer dans ce paysage bouleversé. Ralentissant à des vitesses subsoniques, le vaisseau de descente survola l'étroite bande de climat tempéré et de végétation viable proche de l'équateur et suivit une rivière jusqu'à la souche de l'ex-arbre-monde. Sous sa forme dévastée de 83 km de large et d'encore 1 km de haut, la souche se dressait au-dessus de l'horizon comme une messe noire. Le vaisseau lévita et suivit la rivière en direction de l'ouest, puis atterrit sur un gros rocher, près de l'endroit où le courant s'engouffrait dans une gorge étroite. Les deux hommes et la femme descendirent les marches qui venaient d'être extrudées et passèrent le paysage en revue. C'était le milieu de l'après-midi sur cette partie du bosquet de Dieu, la rivière se précipitait bruyamment dans les rapides, des oiseaux et des arboréaux invisibles pépiaient dans les arbres épais, plus loin en aval. L'air sentait les aiguilles de pin, la chaleur humide, la cendre et des odeurs étrangères inclassables. 2 siècles et demi plus tôt, ce monde avait été bombardé et expulsé de son orbite. Les arbres templiers de 200 mètres de haut qui ne purent s'enfuir dans l'espace furent brûlés dans un incendie qui fit rage pendant près d'un siècle et que seul un hiver nucléaire réussit enfin à éteindre.
« Attention !»
dit l'un des hommes lorsque tous trois furent descendus de la colline pour gagner le bord de la rivière.
« Les monofilaments qu'elle a tissés ici devraient y être encore. »
La femme mince hocha la tête et sortit une arme laser du sac en mousse levée qu'elle portait. Réglant le rayon sur dispersion large, elle balaya l'air au-dessus de la rivière. Des filaments invisibles rougeoyèrent tels une toile d'araignée dans la rosée du matin. Ils s'entrecroisaient au-dessus de l'eau et enveloppaient les rochers, plongeant dans le courant blanc d'écume pour en émerger de nouveau.
« Il n'y en a aucun là où nous devons opérer, »
dit la femme en coupant le laser. Tous trois traversèrent une dépression proche de la rivière et gravirent une pente rocheuse. Ici, le granit avait fondu et coulé comme de la lave pendant la scorification du bosquet de Dieu, mais, sur l'un des versants rocheux en terrasse, on distinguait des signes d'une catastrophe plus récente. Au sommet d'une grosse pierre, à 10 mètres au-dessus de la rivière, le feu avait creusé un cratère dans le rocher. Parfaitement circulaire, il mesurait 5 mètres de diamètre et 50 centimètres de profondeur en son centre. Du côté sud-est, où une cascade de roches fondues avait giclé et coulé jusque dans l'eau, un escalier de pierre noire s'était formé. La roche, qui remplissait la cavité circulaire, en haut du gros roc, était plus foncée et plus lisse que le reste. On aurait dit de l'onyx poli inséré dans un creuset de granit. L'un des hommes pénétra dans la concavité, se coucha de tout son long sur la pierre unie et appuya l'oreille contre elle. Une seconde plus tard, il se releva et fit un signe de tête aux deux autres.
« Reculez !»
dit la femme. Elle toucha son bracelet minicom. Il s'était éloigné de 5 pas quand la lance d'énergie pure surgit de l'espace. Des oiseaux et des arboréaux, pris de panique, s'envolèrent bruyamment et traversèrent le rideau d'arbres. L'air, ionisé et surchauffé en quelques secondes, envoya une onde de choc dans toutes les directions. Des branches et des feuilles s'enflammèrent à 50 mètres du point de contact du rayon. Le cône de pure brillance, qui avait exactement le même diamètre que la dépression circulaire creusée dans le gros rocher, transforma la pierre lisse en un lac de feu. Les deux hommes et la femme n'avaient pas bronché. Leur combinaison spatiale fumait dans cette chaleur de fournaise, mais le tissu spécial ne brûla pas. Leur chair non plus. « Terminé !» dit la femme par-dessus le rugissement du rayon d'énergie et de l'incendie dévastateur. Le faisceau doré cessa d'exister. L'air chaud se précipita en vent de tempête pour combler le vide. La dépression creusée dans le roc était devenue un cercle de lave bouillonnante. L'un des hommes s'avança, mit un genou à terre et parut écouter. Puis il fit un signe de tête aux autres et changea de phase. La seconde d'avant, il était chair et os, sang, peau, cheveux, et maintenant une statue de chrome argenté en forme d'homme. Le ciel bleu, la forêt en feu et le lac en fusion se reflétaient parfaitement sur sa peau changeante. Il plongea un bras dans la mare de roche fondue, se pencha, l'enfonça plus profondément, puis en retira quelque chose. La forme argentée de sa main semblait s'être dissoute dans une autre forme humaine tout aussi argentée, celle d'une femme. La sculpture chromée masculine tira la statue féminine métallique du chaudron de lave sifflant et crachant, l'emporta sur une 50 mètres, jusqu'à un endroit où l'herbe ne brûlait pas, et où la pierre était assez froide pour supporter leur poids. Les deux autres les suivirent. L'homme abandonna sa forme de chrome argenté, et la femme qui l'avait portée fit de même. Celle qui venait d'émerger du vif argent ressemblait comme une jumelle à la femme aux cheveux courts en combinaison spatiale.
« Où est cette putain de gosse ?»
demanda la rescapée. Autrefois, elle était connue sous le nom de Radamante Némès.
« Parti !»
répondit son sauveur. Lui et son compagnon auraient pu être ses frères ou ses clones mâles.
Ils ont emprunté le dernier portail d'Istrance.
Radamante Némès grimaça un peu. Elle faisait jouer ses doigts et bougeait les bras comme si elle souffrait de crampes.
« Au moins j'ai tué ce damné androïde. »«
Non, »
dit l'autre femme, sa jumelle qui n'avait pas de nom.
« Ils sont partis dans le vaisseau de descente du Raphaël. L'androïde a perdu un bras, mais l'autochirurgien l'a maintenu en vie. »
Némès hocha la tête et jeta un coup d'œil en arrière, sur le versant rocheux où la lave coulait toujours. La lueur de l'incendie révélait la toile scintillante des monofilaments au-dessus de la rivière. Derrière eux, la forêt brûlait.
« Ce n'était pas agréable, là-dedans. Je ne pouvais plus bouger pendant que la pleine puissance de la lance du vaisseau brûlait sur moi, et ensuite, je n'ai pas pu changer de phase à cause de la roche qui m'entourait. Il a fallu une énorme concentration pour économiser l'énergie et cependant maintenir une interface active de changement de phase. Combien de temps suis-je resté enseveli ?
4 années terrestres,
répondit l'homme qui n'avait pas parlé jusqu'alors. Radamante Némès leva un mince sourcil, d'un air plus interrogateur que surpris.
Pourtant, le centre savait où j'étais.
Le centre savait où tu étais,
confirma l'autre personne. Sa voix et les expressions de son visage étaient identiques à la femme de celle qu'il venait de sauver.
Et le centre savait que tu avais échoué.
Némès fit un mince sourire.
Alors, ces 4 années ont été une punition. Un aide-mémoire,
dit l'homme qui l'avait tiré du rocher. Radamante Némès avança de 2 pas, comme pour tester son équilibre.
Alors, pourquoi êtes-vous venu me chercher aujourd'hui?
La petite fille,
expliqua l'autre femme.
Elle va revenir. Nous reprenons notre mission.
Némès acquiesça d'un signe de tête. Son sauveur posa la main sur son épaule maigre.
Et je t'en prie, pense que 4 années enfouies dans le feu et la pierre ne seront rien à côté de ce qui t'attend si tu échoues de nouveau.
Némès le regarda fixement un long moment sans répondre. Puis tous 4, tournant le dos à la lave et aux flammes en une chorégraphie parfaite, marchant du même pas, s'avancèrent à l'unisson vers le vaisseau de descente. Sur le monde désertique de Madre de Dios, le père Federico de Soya se préparait à célébrer la première messe du matin du Llano Estacado, haut plateau appelé ainsi à cause des pylônes des générateurs d'atmosphère quadrillant le désert à 10 kilomètres d'intervalle les uns des autres. La petite ville de Nuevo Atlan comptait moins de 300 résidents, en majorité des mineurs de bauxite de la Pax, qui attendaient de mourir avant de rentrer chez eux, et quelques marialistes qui gagnaient péniblement leur vie comme bergers de Korgor dans les terrains toxiques. Le père de Soya savait, avec précision, combien d'entre eux viendraient à la chapelle pour la première messe. 4. La vieille mère Sanchez, une veuve qui, disait-on, aurait assassiné son mari pendant une tempête de sable 62 ans auparavant. Les Perel, des frères jumeaux qui, pour des raisons inconnues, préféraient l'ancienne église en mauvais état à la chapelle immaculée, climatisée, située sur la réserve de l'exploitation minière. Et le vieil homme mystérieux au visage marqué par les radiations qui s'agenouillait au dernier rang et ne participait jamais à la communion. Une tempête de sable soufflait sur le désert, il y en avait toujours une d'ailleurs. Et le père de Soya dut parcourir en courant les 30 mètres qui séparaient son presbytère en pisé de la sacristie. Une capuche en fibroplastique transparent sur la tête et les épaules, afin de protéger ses vêtements, son bréviaire fourré tout au fond d'une poche. Tous les soirs, lorsqu'il ôtait sa soutane et suspendait sa barrette à une patère, le sable tombait en une cascade rouge, telle du sang séché s'échappant d'un sablier brisé. Et chaque matin, quand il ouvrait son bréviaire, du sable crissait entre les pages et lui salissait les doigts.
« Bonjour, père, »
dit Pablo lorsque le prêtre pénétra en hâte dans la sacristie et remit en place les joints étanches craquelés entourant le chambranle de la porte.
Bonjour, Pablo, mon plus fidèle enfant de cœur.
Le prêtre se reprit mentalement, c'était son unique enfant de cœur. Pablo, enfant un peu simple, simple dans le sens archaïque du mot, c'est-à-dire mentalement retardé, mais cela signifiait aussi honnête, sincère, fidèle et amical. Était là pour servir la messe que De Soya célébrait tous les jours de semaine à 6h30 du matin, et deux fois le dimanche, bien que les mêmes quatre personnes fussent les seules à assister à l'office dominical matinal, et qu'à la grand-messe, l'assemblée se réduisit à une demi-douzaine de mineurs de bauxite. Le petit garçon hocha la tête et sourit de nouveau. Sourire qui s'effaça dès qu'il eut enfilé son surplis propre et empesé sur son aube d'enfant de cœur. Le père De Soya passa devant lui en ébouriffant les cheveux noirs du gamin et ouvrit le grand bahut qui renfermait les vêtements sacerdotaux. Le matin était devenu aussi sombre que la nuit du plateau désertique, la tempête de sable ayant avalé le lever du soleil, et la lampe tremblante de la sacristie constituait le seul éclairage de la pièce froide et nue. De Soya s'agenouilla, pria avec ferveur durant un moment, puis commença à revêtir les habits sacerdotaux. Pendant 20 ans, en tant que père capitaine de la flotte de la Pax, commandant de vaisseaux torches tels que le Balthazar, Federico De Soya avait endossé des uniformes où la croix et le col romain étaient les seuls signes de sa prêtrise. Il avait porté une armure de combat en plasquève, des combinaisons spatiales, des implants comme tactiques, de grosses lunettes d'affichage de données, des gants de Dieu, tout l'attirail d'un capitaine de vaisseau torche, mais rien de tout cela ne le touchait et ne l'émouvait autant que ses simples vêtements de prêtre de paroisse. Depuis 4 ans, le père capitaine, dépouillé de son grade et rayé du service de la flotte, redécouvrait sa vocation initiale. De Soya mit sur ses épaules la mique en lin, aussi blanc et immaculé en dépit des incessantes tempêtes de sable, que l'aube qu'il enfila ensuite. Il ceignit la ceinture en chuchotant une prière, sortit l'étole blanche de la commode, la tint respectueusement à deux mains durant un instant, puis la passa autour de son cou en croisant les deux bandes de soie sur sa poitrine. Derrière lui, Pablo s'affairait dans la petite pièce, rangeant ses bottes sales et enfilant les tennis bon marché en fibroplaste que sa mère lui avait dit de garder ici, juste pour la messe. Le père De Soya enfila en dernier la chasuble portant une croix sur le devant. Elle était blanche avec un mince liseré pourpre. Ce matin, il allait dire une messe de bénédiction en administrant silencieusement le sacrement de pénitence à la veuve présumée meurtrière du premier rang et à l'anonyme du dernier banc marqué par les radiations. Pablo se précipita vers le prêtre. Le gamin souriait et haletait. Le père De Soya posa la main sur sa tête pour essayer d'aplatir la crinière rebelle, tout en le calmant et le rassurant. Le prêtre prit le calice, ôta sa main droite de la tête de l'enfant pour placer la patène, et dit d'une voix douce « Ça y est ». Le sourire de Pablo disparut, effacé par la gravité du moment, et l'enfant, prenant la tête de la procession, franchit la porte de la sacristie et se dirigea vers l'autel. De Soya remarqua aussitôt qu'il y avait 5 et non pas 4 silhouettes dans la chapelle. Les fidèles habituels étaient là, tous déjà agenouillés, se levèrent, puis s'agenouillèrent de nouveau, mais il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un de grand et de silencieux, debout dans les ombres épaisses près de l'endroit où le petit narthex s'ouvrait sur la nef. Durant la messe renouvelée, la présence de l'étranger parasita la conscience du prêtre, qui essayait de son mieux d'éliminer tout ce qui n'était pas le mystère sacré auquel il prenait part.
« Dominus vobiscum, » dit le père De Soya.
Depuis 3000 ans, croyait-il, le Seigneur était avec eux tous.
« Et cum spiritu tuo. »
Tandis que Pablo prononçait la réponse, le prêtre tourna un peu la tête pour voir si la lumière éclairait la grande forme mince dans le recoin sombre de la nef. Mais non. Pendant le canon, le père De Soya oublia la mystérieuse silhouette et réussit à concentrer toute son attention sur l'hostie qu'il prit de ses doigts carrés et éleva.
« Hoc est enim corpus meum,
prononça distinctement le jésuite, sentant le pouvoir de ses paroles et priant pour la 10 000e fois afin que ses péchés de violence, commis en tant que capitaine de la flotte, soient lavés par le sang et la miséricorde du Sauveur. Seuls les jumeaux Perel s'avancèrent vers le banc de communion. Comme toujours, De Soya prononça les paroles et donna l'hostie aux deux jeunes gens. Il résista au désir ardent de jeter un coup d'œil sur la silhouette perdue dans l'ombre, au fond de l'église. La messe se termina dans l'obscurité. Le hurlement du vent étouffa les dernières prières et leurs réponses. Cette petite église n'avait pas l'électricité, ne l'avait jamais eue, et la flamme clignotante des 10 bougeoirs muraux faisait peu pour percer la pénombre. Le père De Soya donna sa bénédiction finale, puis remporta le calice dans la sacristie sombre pour le déposer sur l'autel plus petit. Pablo s'empressa d'enlever son surplis et d'enfiler son anorak coupe-vent.
« À demain, père ?»«
Oui, merci, Pablo. N'oublie pas de... »
Trop tard. Le gamin avait déjà franchi la porte et courait vers le moulin à épices où il travaillait avec son père et ses oncles. La poussière rouge emplissait l'air autour de la porte défectueuse que les intempéries avaient décapée. Normalement, le père De Soya aurait dû ôter ses vêtements sacerdotaux et les ranger dans l'armoire. Plus tard dans la journée, il les emporterait au presbytère pour les nettoyer. Mais ce matin, il garda la micte, l'aube, la ceinture, l'étole et la chasuble. Pour une raison qu'il ignorait, il sentait qu'il en aurait besoin, autant que de l'armure de combat en plasquève lors des armures d'abordage pendant la campagne de Colsac. La grande silhouette, toujours dans l'ombre, apparut sur le seuil de la sacristie. Le père De Soya attendit, résistant à l'envie de se signer ou de brandir les hosties consacrées qui restaient, comme on se protège des vampires ou du diable. Dehors, le vent hurla comme une banshee, cette fée irlandaise dont les cris présagent la mort. La silhouette fit un pas qui la plongea dans la lueur rougeoyante de la lampe. De Soya reconnut le capitaine Margaret Wu, l'assistante personnelle et l'agent de liaison de l'amiral Maruzin, commandant de la flotte de la Pax. Pour la seconde fois ce matin-là, De Soya se reprit. C'était maintenant l'amiral Margaret Wu. Les galons sur son col étaient tout juste visibles dans la lumière rouge.
« Père capitaine De Soya !»
Le jésuite hocha lentement la tête. Il n'était que 7h30 sur ce monde à la journée de 23h, mais il se sentait déjà fatigué.
« Seulement père De Soya, » répondit-il.
« Père capitaine De Soya !»
répéta l'amiral Wu, et cette fois son ton n'était plus interrogateur.
« Vous êtes réaffecté au service actif. Vous avez 10 minutes pour rassembler vos affaires et venir avec moi. Cette réaffectation prend immédiatement effet. »
Federico De Soya soupira et ferma les yeux. Il éprouva comme une envie de pleurer.
« Je t'en prie, mon cher Seigneur, éloigne-moi de cette coupe. »
Quand il rouvrit les yeux, le calice était encore sur l'autel et l'amiral Margaret Wu attendait toujours.
« Bien, » dit-il à voix basse, et lentement, soigneusement, il commença à ôter ses vêtements sacerdotaux.
Au troisième jour après la mort et l'ensevelissement du pape Jules XIV, un mouvement se produisit dans sa crèche de résurrection. Les fins cordons ombilicaux et les sondes ingénieuses se retirèrent et disparurent. Le cadavre allongé sur la dalle parut d'abord inanimé, bien que sa poitrine se soulevât et retombât. Puis il se convulsa, gémit et, après plusieurs longues minutes, s'appuya sur un coude et finit par s'asseoir, le linceul de lin et de soie richement brodé glissant autour de la taille de l'homme nu. Durant plusieurs minutes, il resta assis au bord de la dalle de marbre, la tête dans ses mains tremblantes. Puis il leva les yeux lorsqu'un panneau secret, dans le mur de la chapelle de résurrection, s'ouvrit avec un infime sifflement. Un cardinal en rouge traversa la pièce mal éclairée dans un bruissement de soie et un cliquetis de chapelet. Près de lui marchait un grand bel homme aux cheveux et aux yeux gris. Il était vêtu d'une combinaison de flanelle grise, simple mais élégante.
trois pas derrière le cardinal et cet homme, surgirent deux gardes suisses en uniforme médiéval rouge et noir. Ils ne portaient pas d'armes. L'homme nu, assis sur la dalle, battit des paupières comme si ses yeux n'arrivaient même pas à s'accoutumer à la lumière tamisée de la chapelle mal éclairée. Pour finir, il réussit à accommoder.
« Lourdus ami, » dit l'homme ressuscité.
« Père Duret, »
répondit le cardinal. Il portait un gigantesque calice d'argent. L'homme nu fit des mouvements des lèvres et de la langue, comme s'il s'était réveillé avec un vilain goût dans la bouche. C'était un très vieil homme au visage maigre, ascétique, aux yeux tristes. D'anciennes cicatrices zébraient son corps fraîchement régénéré. Sur sa poitrine, deux cruciformes tumescents rougeoyaient.
« En quelle année sommes-nous ? »
demanda-t-il enfin.
« L'année 3131 de notre Seigneur, » répondit le cardinal, debout près de l'homme assis.
Le père Paul Duret ferma les yeux.
« 57 ans se sont écoulés depuis ma dernière résurrection. 279 ans depuis la chute des dix trances. »
Il ouvrit les yeux et regarda le cardinal.
« 270 depuis le jour où vous m'avez empoisonné, en tuant le pape Téliard Ier. »
Le cardinal Lourdus ami émit un rire caverneux.
« Vous surmontez vite la désorientation de la résurrection, si vous pouvez compter aussi bien. »
Le regard du père Duret passa du cardinal à l'homme en gris.
« Albedo, vous venez en tant que témoin ?» ou pour encourager votre Judas domestiqué. »
L'homme ne répondit pas. Les lèvres déjà minces de Lourdus ami se pincèrent jusqu'à disparaître entre ses bajoues rubicondes.
« Antipape, avez-vous autre chose à dire avant de retourner en enfer ?»«
Rien à vous, »
murmura le père Duret, et il ferma les yeux en prière. Les deux gardes suisses saisirent les bras maigres du père Duret. Le jésuite ne résista pas. L'un des soldats prit l'homme ressuscité par le front et lui renversa la tête en arrière, tendant comme un arc son cou maigre. Le cardinal Lourdus ami s'avança d'un demi-pas. Des plis de sa manche en soie, il tira, avec un petit bruit sec, un couteau à la poignée de corne. Pendant que les soldats tenaient Duret toujours passif, dont la pomme d'Adam semblait devenir plus proéminente tandis qu'on lui tordait la tête en arrière, Lourdus ami leva le bras en un geste circulaire et fluide. Le sang jaillit de la carotide tranchée de Duret. Reculant pour éviter de tacher sa robe, Lourdus ami remit le couteau dans sa manche, leva le calice à large ouverture et recueillit le flot qui puisait. Quand le calice fut presque rempli et que le sang cessa de jaillir, il fit un signe de tête au garde suisse qui relâcha aussitôt la tête du père Duret. L'homme ressuscité était de nouveau un cadavre à la tête pendante, aux yeux toujours fermés, à la bouche ouverte, dont la gorge tailladée béait comme des lèvres peintes en un terrible sourire déchiqueté. Les deux gardes suisses reposèrent le corps sur la dalle et ôtèrent le linceul. Le mort-nu semblait pâle et vulnérable. Gorge déchirée, poitrine balafrée, longs doigts blancs, ventre blême, organes génitaux flasques, jambes décharnées. La mort, fût-ce en cet âge de résurrection, laisse peu de dignité même à ceux qui ont conservé leur maîtrise de soi durant toute leur vie. Tandis que les soldats tenaient le beau linceul à l'écart de toute souillure, Lourdus ami versa le sang du lourd calice sur les yeux, dans la bouche béante, dans la blessure à vif, sur la poitrine, le ventre et l'aine du cadavre. La couleur écarlate ainsi étalée surpassait en intensité la robe du cardinal.
« Si aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, »
dit le cardinal Lourdus ami.
« Tu n'es plus fait de chair, mais d'esprit. »
L'homme grand leva un sourcil. « Bac, non ? »
Bien sûr,
répondit le cardinal en posant le calice vide à côté du cadavre. Il fit un signe de tête aux gardes suisses qui recouvrirent le corps du linceul plié en deux.
« Jesu, mein Freund !» ajouta-t-il.
« C'est bien ce qu'il me semblait, » dit l'autre homme.
Il jeta au cardinal un regard interrogatif.
« Oui, »
acquiesça l'ourdu Samy.
« Maintenant. »
L'homme en gris contourna la bière et se posta derrière les deux soldats qui finissaient de border le linceul imbibé de sang. Quand ils se redressèrent et s'écartèrent de la dalle de marbre, l'homme en gris leva ses grandes mains au niveau de la nuque des deux hommes. Leurs yeux et leurs bouches s'ouvrirent tout grands, mais ils n'eurent pas le temps de crier. En une seconde, leurs yeux et leurs bouches ouvertes s'enflammèrent d'une lumière incandescente, leur peau devenue translucide révéla la flamme orange qui brûlait dans leur corps, puis ils disparurent, volatilisés, dispersés en particules plus fines que de la cendre. L'homme en gris se frotta les mains pour en ôter la mince couche de micro-cendre.
« Quelle pitié, conseiller Albedo !» murmura le cardinal Lourdes Samy en un grondement profond.
L'homme en gris regarda le soupçon de voile ténue posé par l'air se déposer dans la pâle lumière, puis revint au cardinal. Son sourcil se leva une fois encore en point d'interrogation.
« Non, non, non !» grogna Lourdes Samy. « Je parlais du linceul. Les taches ne partiront jamais. Il faut en tisser un autre après chaque résurrection. »
Il pivota sur ses talons dans un bruissement de robe et regarda fixement le panneau secret.
« Venez, Albedo. Il faut que nous parlions et j'ai encore une messe d'action de grâce à dire avant midi. »
Lorsque le panneau se fut refermé derrière eux, la chambre de résurrection demeura silencieuse et vide, n'était le cadavre enveloppé dans son linceul, et un infime soupçon de brouillard gris flottant dans la faible lumière, une brume en train de s'effacer, suggérant les âmes disparues des morts plus récents.